Nathalie Grenon et le Vez.
Lundi au vendredi, 14h, au FM 93.
93.
14h, mesdames et messieurs, au FM 93. Marc Boilard avec vous, en grande forme, j'avoue. Très grande forme. Ainsi que l'équipe. Ben, je me sens en pleine forme.
Pieds deux,
pourquoi donc?
Ouais. Ah, en forme de bouteille, tiens, ouais, si on veut.
Dans une forme humaine.
Exactement.
Presque physique.
Oui. Non, mais sérieux, parce que je regarde notre pacing, je trouve qu'on a une émission qui est ragoûtante avec beaucoup de sujets très variés.
Ah, pourtant, j'ai pas vu mon nom dedans.
Ah, ben, c'est parce que je dis ça parce que tu reviens à chaque heure.
Oui,
à chaque heure, tu sauves le show.
T'es pris pour acquis.
Le reste, on rame, mais on sait qu'au moins, quand on arrive à 3, à 4, à 5,
voilà,
ça va lever.
Absolument.
Tu vas bien, Vez?
Bien sûr.
Bon, ben super. On a Alexis qui est là parce que Julie est absente aujourd'hui.
Oui.
Donc, te voilà en renfort sur le dernier mille. Donc, on dit bonjour.
Absolument.
À Julie.
Absolument. Bonjour.
Et puis, oui, ça va bien?
Ça va bien, toi, Marc?
T'es un gars qui à date, j'avais une panne de surnom quand je pensais à toi.
Ah oui, pourtant, il me semblait que t'en trouvais un nouveau à chaque fois.
Ben, non, mais c'est que je réalise que finalement, t'es une source vraiment intarissable d'inspiration et de vitamine C.
Ils sont meilleurs que les miens, pour vrai. Là.
Ah oui?
Oui.
OK, ben là, je comprends. Donc,
c'est Alexis Sanson, il y avait eu Santolate à Sanson.
Oui.
Bon.
Oui.
Et puis Luc est arrivé avec tantôt une piste, Alexis Jaurès, parce que t'es un gars
de chasse. Moi,
il y a-tu aussi Sansoncien de chasse?
Quoi?
Il n'y avait pas ça.
Sans son sien
de sas.
Non, mais dis-le au début, vas-y.
Ben, sans son sien de
non,
sas.
Non, un sasseur, commence au début.
Un sasseur, ça sent sasser. Doit savoir sasser sans son.
Bravo! Un sasseur, ça sent sasser. Oh, il doit savoir sasser sans son sien
de sas.
De sas. Ah, c'est malade. OK, non, sérieux, beaucoup d'affaires le fun. Et puis, entre autres, il y a des affaires dans le monde en général qui nous intéressent, qui sont moins le fun, entre autres les États-Unis avec l'Iran. Alors, on sait qu'il y a eu des missiles qui ont été tirés il y a quelques heures de ça, il y a deux jours, pour être précis. Parce que ça arrive souvent la nuit, hein, pour nous autres. Tu sais, moi, des fois, je suis sur Twitter à minuit, tout à coup, pouf, il y a une nouvelle. Et puis, il n'y a pas eu de victime, etc. Puis là, bon, ben, c'était la réponse à l'assassinat du général iranien qui a été assassiné par une commande de Donald Trump. Et là, on se demandait qu'est-ce que les États-Unis allaient faire, parce que c'est souvent une game de ping-pong. On a toujours peur que ça escalade. Et Donald Trump, à 11h aujourd'hui, a fait une conférence de presse apaisante, je dirais. C'est-à-dire que c'est comme si un peu il a dit... Ça revenait à dire « c'est de bonne guerre ». Nous autres, on a fait quelque chose qu'on croyait qui était important, c'est-à-dire se débarrasser de cet homme-là. Il y en a beaucoup profité aussi. On va pas l'écouter au complet, ça a duré à peu près 10-12 minutes. Il y en a beaucoup profité pour faire un bilan de ce que lui juge être...
nécessaire.
Exact. Puis de tu sais, un peu, il se glorifie à travers ça. C'est très trumpien.
Mm-hmm.
Mais en même temps, c'est une lecture des choses qui se peut. Là, tu sais, à la rigueur, encore là, tout est souvent question d'interprétation. Ceci étant dit, on va écouter la fin de sa conférence de presse où, à quelque part, ce qu'il dit, c'est, en grosso modo, là, je vous le traduis d'avance, ce qu'il dit, c'est que, on a fait quelque chose qu'on jugeait nécessaire. Par la suite, ils ont envoyé leur missile. Ils ont eu aucun décès ni blessure du côté américain. Ça revenait quasiment à dire « c'est de bonne guerre », entre guillemets. Là. Il y a un petit côté de tout ça, là, si on veut. Puis il finit avec un message en disant « personne veut la guerre, nous autres, le premier. C'est pas le but recherché. » C'est qu'on sent que probablement qu'il n'y aura pas de suite à ça, à part des sanctions économiques. Donc, on écoute Donald Trump qui parlait ce matin à 11h.
« Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve. » One of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you and God bless America. Thank you very much.
Pour nous éclairer sur tout ça, on va parler à un professeur de l'École politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, M. Sami Aoun. Bonjour, M. Aoun.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci. Bon.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que Donald Trump a dit aux Américains et quelque part au monde entier aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'il était fier qu'il a marqué des points, surtout contre le régime iranien. Il n'a pas été attiré dans une spirale de violence et il croit peut-être profondément que l'élimination de ce général iranien qui avait le mandat de renforcer la présence iranienne dans le voisinage, particulièrement en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen et bien ailleurs. Alors, il croit que la réponse iranienne a été mesurée et que le régime iranien a été dissuadé. Alors, c'est clair qu'il était fier. Il a adressé un message direct au peuple iranien qu'il n'est pas un va-t-en en guerre et qu'il est capable de tendre la main, surtout qu'il va continuer ce qu'il appelle, lui, la pression maximale économique et l'endiguement diplomatique. Mais une fois qu'il a compris que les Iraniens ne vont pas aller loin dans une réponse mal calculée et sous-estimer la puissance américaine, à ce moment, il prend une tangente plutôt conciliatrice et plutôt ouverte au dialogue. Pas nécessairement directement, mais par des puissances qui sont des intermédiaires bien connues.
D'après vous, professeur Aoun, est-ce que l'assassinat du général Soleimani, c'est politique ou c'est pour des vraies raisons sécuritaires?
Les deux à la fois, à vrai dire. Général Soleimani, peut-être il a sous-estimé un peu la réaction de la Maison-Blanche. Il a sous-estimé qu'il y a un changement d'humeur à Washington avec le président Trump. Depuis deux ans à peu près, Qassem Soleimani essayait d'avoir le monopole de la gestion du quotidien et du politique en Irak. Aussi, les Iraniens étaient fiers qu'ils ont une main mise sur quatre capitales arabes. Et sur ce point, beaucoup des alliés des Américains reprochaient à l'administration américaine qu'il y a une faiblesse, une mollesse à l'égard de l'Iran. Donc, c'est une frappe qui a une portée géopolitique, puisque Qassem Soleimani était le mandaté, l'architecte de créer cette et consolider cette influence iranienne en créant et en consolidant des forces miliciennes qui sont soit en parallèle au gouvernement en place au Proche-Orient, qu'ils soient encore en peut-être intégrés un peu dans la machine du pouvoir. L'autre point, c'est idéologique. C'est vrai que Qassem Soleimani n'est pas un clerc, n'est pas un religieux, mais il a des convictions profondément religieuses et il se colle et il s'identifie au guide de la République iranienne, le Ayatollah Khamenei. Et en ce sens, il y a les deux, comme vous dites, il y a le politique et le sécuritaire, puisque lui-même, et il a été si fier de faire saigner les Américains, et même il était fier d'être la contre-révolution contre en Irak, par exemple, dans les milieux chiites qui contestaient la présence iranienne et contre les Iraniens qui contestaient le régime lui-même dans les villes différentes de l'Iran.
En ce cas, moi, j'ai l'impression que l'allocution de M. Trump de ce matin, c'est comme si c'était un point final à la crise. Qu'il n'y aura pas d'autres attaques ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce qu'on a raison de penser de même ou si ça se peut que, malgré tout ce qui a été dit ce matin, malgré les apparences, qu'il pourrait y avoir d'autres frappes?
Oui, vous avez raison. Il y a une porte d'opportunité ouverte, de catastrophe un peu. C'est est-ce que les miliciens irakiens vont venger aussi le leader qui a été tué avec Qassem Soleimani? Ça, c'est une possibilité. Mais en général, l'ordre milicien, qu'il soit en Irak, au Liban particulièrement, suit à la lettre les directives du régime iranien et surtout la personne de Khamenei. Mais vous avez bien raison aussi, est-ce que le régime iranien prend une pause et il veut recalculer le rapport de force et voir s'il y a des lacunes, surtout chez les alliés des Américains, surtout les Arabes du Golfe ou ailleurs. Est-ce qu'il va toucher des cibles molles ou pas? Mais pour l'instant, il semble que le pragmatisme en Iran l'a remporté sur le dogmatisme idéologique ou religieux. Et chez M. Trump, lui, il calcule encore que toute guerre pourrait porter des dérapages et il se peut que cela lui fait mal dans la course présidentielle. Alors, on a du pragmatisme de deux côtés. Est-ce que le Moyen-Orient nous porte parfois des mauvaises surprises? Oui, et il faut être prudent dans les estimations.
J'ai hâte de vous entendre là-dessus, M. Hassoun, là, l'écrasement d'avion qui est survenu au cours de la nuit, là, si on veut, du côté de l'Iran. On plaide que c'est un problème technique, mais honnêtement, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais les circonstances font en sorte que c'est dur de croire qu'il n'y a pas de coïncidence, qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Un avion ukrainien qui s'écrase en Iran, fait 163 morts, plusieurs Canadiens, et qui survient quelques temps à peine après que les missiles aient été lancés par l'Iran. Donc ça vient complexifier un peu la situation.
Oui, vous avez raison, mais il ne faut pas donner libre cours à la mentalité de complot, à la mentalité de conspiration qui fait maintenant des rages sur les réseaux sociaux. Oui, il faut garder un peu la patience et voir qu'est-ce que l'enquête pourrait montrer. Et si jamais il y a un missile qui a frappé par hasard ou par détermination l'avion, il faut le montrer. Si c'est un acte terroriste, il est facile de le prouver, à vrai dire. Le fait que les Iraniens ont dit qu'ils ne veulent pas livrer les boîtes noires ni à la compagnie Boeing ni aux Américains, alors ça laisse un petit soupçon. Mais après tout, il y a des pays qui sont déjà mandatés pour déchiffrer les boîtes noires, entre autres proches de l'Iran, qu'il soit la France, l'Allemagne, pour ne pas nommer tous.
Et le Canada qui dit qu'on veut faire une enquête avec ses propres partenaires, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que vraiment le Canada peut mener une enquête à ce sujet-là?
Le Canada est en rupture diplomatique avec l'Iran, mais certainement l'agence internationale qui généralement dit que l'enquête devrait être par le pays où le désastre est tombé. Mais parce que, comme vous savez, dans ces histoires de désastres dans l'aviation, il y a quelque chose qui est arrivé, par exemple, en Égypte, avec aussi un avion russe, et ça a paru comme peut-être ça a été un acte terroriste, et on a compris ça après quelques mois. Mais en tout cas, c'est mieux de ne pas aller faire des extrapolations à un moment où il y a beaucoup de fake news et un peu les émotions sont quand même assez tendues.
Monsieur Aoun, je veux vérifier une théorie avec vous. On a une époque où est-ce qu'on entend beaucoup parler dans les cours d'école là, d'intimidation, etc., puis on se dit c'est pas fin, c'est pas bon, etc. Mais en politique internationale, est-ce que force est de constater que Donald Trump a, depuis son arrivée, décidé de dire « c'est moi le plus fort », il l'a fait avec Kim Jong-un, où au début, il disait que, rappelez-vous, ses missiles sont plus gros que les siens, etc., pour finir avec des poignées de main puis des photos où ce que les deux sourient. Il n'a pas fait encore un peu la même chose, c'est-à-dire de commencer en disant « je sais que ça paraît mal, on nous dit qu'il faut pas faire ça, sauf que moi, chez nous, c'est moi le plus fort, j'envoie un missile, je fais la job que je juge que je devrais faire. » Il y a une réponse somme toute modérée, puis après, je m'en vais en conférence de presse en disant « on cherche pas la gamme », mais il aura toujours fait le premier move, puis le premier geste qui démontre. Est-ce que même si ça paraît mal, on peut pas dire que Donald Trump, à quelque part, fait quelque chose qui, somme toute, est efficace?
Oui, il faut voir que, par exemple, dans le dossier de Venezuela, dans le dossier de Corée du Nord, ça n'a pas réussi justement comme il le prétendait ou il le souhaitait. Mais vous avez raison sur ce point. Le fait qu'il se démarque de l'administration Obama, qui était plutôt de ce qu'on appelle en Europe généralement l'appeasement, l'apaisement de l'ennemi ou du rival. À ce moment, M. Obama voulait quand même avoir la signature de l'Iran sur l'entente nucléaire en laissant l'Iran aller faire une expansion, exporter sa révolution et même en intimider les alliés traditionnels des États-Unis, particulièrement l'Arabie saoudite, Israël et autres. Alors sur ce point, il semble que pratiquement M. Trump a changé d'humeur, il a changé l'approche et il devient quand même capable de dissuader l'Iran. C'est vrai, et aussi un autre point, c'est vrai que M. Trump parfois fait des gazouillis qui sont soit impétueux, soit impulsifs, mais il faut toujours comprendre, après tout, il va s'inscrire dans ce que l'establishment américain décide. Comme dans le cas de l'assassinat de Qassem Soleimani, on est sûr presque que c'est M. Pompeo, le secrétaire des Affaires étrangères, un ancien de la CIA, qui a décidé, qui a mis le plan, et M. Trump a signé. Alors, pratiquement, M. Trump donne l'apparence qu'il est un peu rebelle sur son establishment, mais en fin de compte, il le suit, comme c'est arrivé dans le retrait annoncé dans ses gazouillis de la Syrie et laisser tomber les Kurdes. On le voit revenir sur cette décision. Alors, c'est un peu difficile de suivre M. Trump et le considérer comme simplement de ce qu'il dit dans les gazouillis et ne pas voir ce que la machine américaine décide en fin de compte.
Merci beaucoup, M. Sami Aoun, professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Très éclairant. Merci encore.
Je vous en prie. Bon. Au revoir.
Ça fait que, écoute, de toute façon, comme on dit, on souhaite le meilleur, mais quand tout ça a commencé, là, quand l'assassinat du général Soleimani, est arrivé, j'ai vu ça sur Twitter, là, donc il y a 3 jours, là, précisément, si je ne me trompe pas, puis les gens ont peur, puis ils ont raison, là, parce que, tu sais, c'est une poudrière, là, le Moyen-Orient. Puis je répète la phrase que j'ai dit hier avec Luc Lavoie, où est-ce que on dit, si tu comprends la politique au Moyen-Orient, c'est qu'on te l'a mal expliqué.
Oui.
Puis c'est vrai, parce que, je veux dire, même lui, là, ce général-là, à quelque part, d'un côté, regarde comment c'est comme, c'est un bordel sans nom. D'un côté, le gars, c'est une figure de proue du système iranien.
C'est une rockstar là-bas, là.
Toi, exact. Donc, tu dis c'est un ennemi naturel des Américains, sauf que ça a été le premier à combattre l'État islamique contre les attaques, les avancées, etc., ouais, de l'État islamique en Iran. Ça fait que des fois, t'es allié avec. Comprends-tu? C'est ben jamais oui. Bilatéral comme les guerres, comme on les connaît normal. Aussitôt que ça touche au Moyen-Orient, c'est une espèce de tissu, mon vieux, là, de...
Et c'est que t'as plusieurs positions, parce que t'as des positions qui sont, d'un, qui sont politiques, t'en as d'autres qui sont religieuses, et t'en as d'autres qui sont stratégiques. Et là, ça dépend à quel ennemi t'affronte. Tu sais, quand il est question, par exemple...
Ben, tu peux changer de chapeau, selon le dossier.
Ben, exact. Tu sais, l'État islamique, c'est le meilleur exemple. Les Russes, parfois, sont alliés avec les Occidentaux. Parfois, les Russes vont, comme dans le cas de l'État islamique, vont aller se ranger du côté les Kurdes. C'est que là, ça donne un casse-tête qui, même si tu l'as, ça veut pas dire qu'en 3 dimensions, ça donne la même affaire.
Non.
C'est ça qui est complexe.
C'est très
puis,
complexe.
Puis Soleimani, là, d'ailleurs, Marc, ça remonte dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Ça fait quasiment une semaine
quasiment
qu'on
une
est
semaine.
Là-dessus.
Tu vois, je disais 3-4 jours, ça m'apparaissait.
Mais
dans la vraie vie.
C'est révélateur quand même. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont passées là-dedans que t'as l'impression que ça date juste de quelques jours puis tout ça s'est passé. Mais c'est... Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est notamment ce qui va arriver avec l'histoire de l'écrasement d'avion. Parce que si, effectivement, il y a rien comme ce qui semble la logique, bon, ça va continuer. Mais si jamais on trouve le moindre détail et que l'Iran, comme là, ne veut pas coopérer ni avec les États-Unis, ni avec Boeing, ben là, ça démontre que tu dis, ouais, ben là, y a-tu quelque chose à cacher en arrière
de ça? Mais qui aurait eu intérêt de faire ça? Ça a juste pas rapport.
Ben, OK... On est dans les pures spéculations. Ouais. Mais disons que l'Iran, en bombardant les troupes américaines, ont par accident frappé l'avion.
Je te suis.
Si ça s'est arrivé, eux, ils veulent pas que personne le sache. Là, parce que eux-mêmes, c'était pas leur objectif. Mais ils savent très bien que si c'est arrivé pour vrai, là, tu viens de partir une autre patente qui est bien plus compliquée que ça. Parce que la moitié de ces gens-là, quasiment, c'était les Canadiens. Donc là, quand t'attaques les Canadiens, t'attaques l'OTAN et t'attaques tous les pays membres de l'OTAN. Et là, tous les pays membres de l'OTAN vont se retourner face à l'Iran. Et ça, là, c'est juste le début. Mais je vous dis, on n'est pas là. Parce que, pour l'instant, on n'a pas nécessairement d'informations qui pointent vers là. À part le fait qu'il y a comme quelques temps de différence heure entre le moment où les missiles ont été lancés et le moment où l'avion s'est écrasé. Donc, quelle est la séquence exacte des événements? Ça, c'est pas encore clair. Mais ça pourrait faire déraper le dossier, puis pas à peu près. Là.
Moi, ce qui ressort de tout ça quand même, là, puis après ça, on va passer à un autre sujet, là, mais c'est que, pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est Donald Trump qui donne le ton actuellement à la vie politique internationale partout.
Ah, ben ça, clairement. Ça, je te suis.
Mais c'est pas nouveau que ce soit les Américains qui
lisent. Oui, c'est un peu nouveau. Parce que, Obama était très dans ce que le professeur...
Non, mais je parle sur une plus longue période, là.
Ah, ben oui, ils ont toujours été très belliqueux, absolument, absolument. Mais je te dis juste que sous Obama, on était dans la grande diplomatie, grand discours à l'Université du Caire, puis etc. Puis c'est correct, là. Je veux dire, je suis pas en train de me prononcer ni pour ni contre. Je te dis juste que force est de constater que Trump, il a comme décidé... Quand il dit « Make America Great Again », mais les babines suivent les bottines. Je suis désolé. C'est que
l'inverse. Les bottines suivent les babines.
Les bottines suivent les babines. Et puis après ça, ça peut revirer d'en face, là. Crois-moi, là, je te jure, je suis pas en train de féliciter rien. Je suis pas un spécialiste de ça. Mais si tu me demandes de reculer un peu puis dire c'est qui actuellement? Est-ce que c'est l'OTAN qui décide de ce qui se passe? Est-ce que c'est la Russie qui décide de ce qui se passe? Au moment où on se parle, plus que jamais, c'est les États-Unis qui disent, nous autres, là, on a signé des conventions, enfin, sauf qu'on a décidé, lui, c'est terminé. Lui, c'est terminé. Après, il arrivera ce qui arrivera, mais c'est toujours lui qui donne, tu sais, comme on, dans un orchestre, là, qui donne le la, là. C'est lui qui donne le la. Puis après ça, les gens font comme, hey, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est les États-Unis qui donnent le la. Actuellement, je pense que ça, c'est très réfléchi.
J'aimerais ça revenir trois semaines en arrière, puis qu'il n'y ait pas de processus
d'impeachment.
S'il n'y avait pas eu de ça, est-ce qu'on aurait eu ce qu'il y a eu avec l'Iran?
Trump lui-même avait écrit en 2012 que Obama avait fait
Obama partirait la guerre en Iran pour assurer sa réélection.
Voilà.
Mais lui, c'est finalement peut-être qui l'a fait quelques années plus tard. Hein?
Moi, tomber en conjoncture. Ben oui, mais oui, non, peut-être.
Ben c'est ça, oui, c'est non, ça. Peut-être. On ne sait pas.
C'est ça. T'sais, moi, de commencer à dire, vas-y, ah oui, regarde, il fait ça parce que le gérant d'estrade militaire, là, ça ne m'intéresse pas. Mm. Mais c'est, effectivement, c'est très possible. C'est le jeu de coulisses, on ne le connaît pas. Comme on dit, il se passe en coulisses. Il y a des affaires aussi, changement de sujet, parce que. J'ai parlé de ça avec des amis récemment, puis je vous pose la question, Vez, puis Alexis, Monsieur Jorin, Alexis Jorin.
Oui, c'est ça, voilà. Pas parce que j'utilise toujours...
Non, pas du tout, bien au contraire. C'est très ironique. Vous rêvez à quoi, vous autres?
On rêve à quoi?
Oui, vous rêvez à quoi?
Moi, je meurs souvent.
Hein?
Oui.
Oh, raconte.
Ben, ça arrive souvent.
Là, je demande aux auditeurs la même chose, le 25-226. Dites-moi, c'est quoi le rêve que vous avez l'impression? Parce que peut-être qu'il y en a un qui est 10 fois plus souvent, mais on s'en souvient juste pas. C'est quoi le rêve qui est le plus récurrent? Celui que vous rêvez le plus souvent?
Là, j'espère qu'il n'y a pas d'analyste de rêve, là, parce qu'il y en a qui font ça.
Ils vont nous analyser.
Ils vont me trouver des choses bizarres. Parce que moi, je meurs, puis c'est arrivé quelques fois, genre 2-3, que j'ai tué des gens. Et je me suis réveillé vraiment troublé, parce que là, je me disais, aïe, je suis dans la marde, là. Là, je me dis,
ah, tu filais comme si c'était vrai. Hein?
Oui, oui, parce que pendant un bout de ton rêve, plus tu rêves, plus ça avance, plus je me dis, shit, qu'est-ce que je vais faire? T'sais, j'ai tué quelqu'un, mais je l'ai pas fait pour vrai, puis je me sens mal parce que jamais j'aurais voulu le tuer, mais là, je suis pogné avec ça, puis qu'est-ce qui est arrivé? Pis c'est comme si je l'ai fait. Tu sais, comme dans un film où tu te réveilles, tu l'as fait, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé, puis t'as vraiment l'impression que quelqu'un a mis ça sur ta faute. C'est pas mal tout le temps ce qui arrivait.
Donc, toi, tu te vois pas faire un meurtre.
Non, mais je me réveille comme si je sais que j'en ai fait un. Mais dans mon rêve.
T'es devant
là,
le fait accompli, comme si t'étais un témoin de ton propre geste.
C'est ça. Dans mon rêve. Et là, je me retrouve vraiment mal pris parce que je sais pas quoi faire. Et d'autres fois, ça m'arrive de mourir. Mais c'est vraiment tout le temps dans des circonstances bizarres. Genre, ça arrive jamais que je vais me ramasser pris au milieu d'un champ de bataille de guerre. Quelqu'un va me tirer une balle. Non, souvent, je tombe en bas d'une falaise. Mais la falaise, elle arrive d'où? Je le sais pas. Elle était pas là 12 secondes avant dans mon rêve.
C'est ça, un rêve.
Elle est arrivée, bang, je tombe en bas, c'est fini. Et souvent, c'est ça qui arrive.
Bon, mais essaie de me décrire, parce que habituellement, un rêve, c'est plus un sentiment que des images précises. Quand tu dis « je meurs... »
Tout le temps mêlé. Moi, mes rêves, il n'y a rien de clair, puis ça fait aucun sens.
Tu fais jamais de rêve super clair, là, comme si c'était un film et tout. Moi, ça m'arrive.
Ça arrive, mais je rêve pas beaucoup, d'ailleurs. Souvent, ben, en fait, probablement que je m'en rappelle plus, là, parce qu'il semblerait que semblerait qu'on se souvienne d'un rêve seulement si on se réveille pendant qu'on rêve. Le rêve est terminé, on s'en souvient pas. Mais je fais quelques rêves normaux, mais la majorité, c'est vraiment bizarre. Là. Genre, ça n'a aucun lien, ça se tient pas. Là.
Eh bien, toi, Vez?
J'ai déjà eu des rêves de radio, de théâtre. J'ai fait un peu de théâtre au cégep à l'université.
Tu rêvais au théâtre?
Oui. Puis, ben, en fait, quand j'en faisais à l'université puis au cégep,
oui,
dans la semaine précédant les représentations, je rêvais souvent que j'avais un blanc de mémoire.
Ah oui, hein. Comme souvent, le fameux rêve qu'on est à l'université et qu'on a raté, puis là, non, c'était hier l'examen. Tout le monde l'a fait. Moi, t'as jamais fait ça?
Non, mais non.
Hein? Moi, plusieurs fois.
Ah oui?
Ah oui. Tu rêves que t'arrives en classe, ça ressemble à ta classe, tu dans le fond, comme on dit, ton sentiment, c'est que t'es dans la classe normale, puis elle est vide.
Hein?
Oui. Ben voyons, il y a même dans des films, des comédies, des fois, on voit ça. C'est un rêve récurrent pour plein... Ben,
ah
oui? Oui.
Moi, quand je rêvais à l'école, je me faisais mettre dehors de ma classe. C'est ce qui arrivait.
Ouais, t'étais un cancre.
Ouais, à l'école, on mettait dans. Plus jeune, je me faisais souvent courir après. Par les bandits.
Ça aussi. Mais continue, je t'ai coupé, excuse.
Mais non, ben c'est ça. Des rêves de radio aussi, à l'occasion. C'est pas des affaires très fréquentes, là.
Mais depuis que tu travailles avec moi, tu rêves plus? Ton rêve, il est là?
Je rêve éveillé.
C'est ça, c'est réel.
Oui, oui, oui. Mais quand je rêve de radio, souvent, je vais rêver que... OK, il faut ouvrir le micro, mais je sais pas quoi dire.
Ah, oui.
J'ai un maudit blanc.
OK.
J'ai un blanc comme... Ben, un peu comme au théâtre. OK. À l'époque.
Okay. Toi, c'était comme une hantise subconsciente, là.
Ouais. Ou, il y en a un qui me revient à l'esprit, là, où je... On me parachute pour remplacer dans une pièce de théâtre. Mais j'ai aucune idée c'est quoi le texte, là.
C'est atroce.
Tu sais, puis là, t'es là sur la salle.
Il y a du monde.
Tu cherches un livre, tu sais, avec le texte dedans. Puis là, il y a du monde dans la salle, là. Mais non,
ah, c'est bon.
Gros malaise, là.
On va écouter ce que Léon, lui, qu'est-ce qu'il raconte quand il rêve. Salut, Léon.
Oui, bonjour.
Salut. Oui. Tu rêves à quoi?
Ouais, moi, là, j'ai travaillé pendant 29 ans dans une grosse shop, là, une grosse usine. Puis, à un moment donné, ben, j'ai eu un accident de travail, j'ai été obligé de changer d'endroit. Okay? Puis, depuis ce temps-là, là, presque toutes les nuits, là, je rêve que faut que je rentre au travail. Okay? Sauf qu'il m'arrive toutes sortes d'affaires, d'aventures que ça fait que je regarde là, puis, ben, je vais être en retard. C'est terrible. Puis là, c'est ça, je sors dehors, il va neiger. D'un coup, je m'aperçois qu'il faut que j'y aille en bicycle, puis je descends une côte avec une traîne. Toutes sortes d'affaires de même qui m'arrivent. Puis, j'arrive toujours en retard. Je vois l'heure avancer, puis j'arrive en retard.
Tous les soirs, Léon?
Ah, presque tous les soirs. C'est pas toutes les nuits, là, mais ça arrive très, très souvent. Je comprends pas pourquoi.
Avoir quelqu'un qui
fait ça. Oui, ça travaille quelqu'un, oui.
Ouais. Non, mais c'est spécial parce que ce soit récurrent, je comprends, mais là, tu dis que c'est régulier presque tous les soirs et tout. C'est comme si dans ce dossier-là, dans ta tête, là, d'après moi, on dirait qu'il y a de quoi qui n'est pas réglé. Là. C'est comme s'il y a quelque chose qui traîne encore, hein, on dirait. Ça revient. Là.
C'est ça. Puis, je rêve aussi souvent, puis il y en a quelqu'un, il y en a un dans l'usine qui veut me tuer. Puis là, moi, je me cache. Je me cache dans des endroits, là. Je connais déjà, là, moi aussi, j'ai été partout dans l'usine, ça fait que là, je viens de me cacher, puis là, je le vois arriver, puis j'essaie de me sauver. Ah, c'est stressant.
Mais c'est-tu, nous autres, tu nous le racontes, j'ai dit nous autres, tu nous le racontes, ça nous fait un peu rire, mais toi, c'est-tu un cauchemar ou bien c'est juste un...
Ah, non, non. Non, parce que non, ça me dérange pas, même j'aime ça.
Ah ouais.
J'aime ça, donc je me réveille de la tête puis je trouve ça drôle.
C'est comme aller au cinéma sans être obligé de payer.
T'en plais, ça.
Salut Léon.
Ok, merci,
c'est
bonjour.
Moi, le rêve le plus récurrent que je fais depuis, c'est pas des farces que je vais vous dire, là. Depuis 25 ans, c'est que je vois mon chien vivant.
Ah ouais?
C'est fou, hein? Puis mon gars, ouais. Mon chien vivant, mais je te parle, là. Pas comme toi, Alexis, comme tu parles, là, de, tu sais, genre...
C'est clair.
C'est un film. C'est en noir et blanc. Hein, ça a l'air qu'on rêve jamais en couleur, semble-t-il. Mais je vous le jure, les gars, là, c'est comme, là, vous êtes là, direct de même. Puis c'est comme tu dis, Alexis, toujours, tout à coup, je me réveille. Mais pas en pleine nuit, là. C'est le matin tôt, là. Puis, moi, mon chien, je l'ai aimé de façon démesurée. Puis là, il est là, puis je trippe au bout. Ou c'est l'inverse. Où tout à coup, il est supposé être là, comme il y a un rêve, je me souviens, là, ça fait quand même ça fait un an, deux ans, là, c'est plus clair. Puis j'arrive, puis dans mon rêve, c'est chez ma tante Pauline à Boucherville. Pourquoi? Ça ressemble à rien, mais c'est là, tu sais, c'est fucked up demain. Puis là, je rentre, puis il est supposé être dans son panier en dessous de la table, tu sais, les des petites tables de chevet quand tu rentres dans des maisons. Là. Je sais pas pourquoi, là, mais il est supposé. Puis là, il est pas là, la panique me pogne, puis je braille, là. Je braille, là, ma vie, là. Ah oui!
Dans ton
oui.
rêve.
Puis là, tout à coup, il arrive dans le couloir, là, puis là, t'as pas idée, là. Puis là, je me réveille. Mais tout ça, là, c'est exactement comme si c'était au moment où on se parle. Puis ça ralentit beaucoup depuis quelques années, deux ans. Mais avant, ouais. Écoute, entre 20 et 25 ans, pas récurrent à la semaine, là, mais qui me lâche pas. Ah ouais, encore, tu vois ton chien. Puis là, t'es fou furieux, là, tu fais « Ah ben, c'est donc ben hot », puis tout à coup, tu te réveilles, hein, ça n'a pas rapport.
Puis quand tu te réveilles, est-ce que t'es triste?
Mais je braille comme, mettons, nomme-moi quelqu'un qui braille au cinéma, okay, c'est deux fois ça.
Même quand tu te réveilles?
Oui.
Ah oui?
Bouleversé.
Hey Marc, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit leurs rêves par texto.
Ah ouais donc?
Il y a quelqu'un qui nous dit que, bon, il disait « Tuer quelqu'un, être trompé par mon conjoint, prise en otage, subir des sévices douloureux, c'est les plus récurrents. » C'est quelqu'un qui a subi ces rêves-là.
C'est des rêves, c'est rigolo.
Ben oui.
Ça, c'est drôle, hey. Ça. Il y a quelqu'un qui dit que je rêve souvent que je suis à l'école, j'ai envie d'uriner, mais je trouve aucune toilette. La personne a 51 ans, elle tourne en rond. Ma blonde fait des rêves plates et elle me raconte tout le temps. Une fois, elle a dit qu'elle a rêvé qu'elle magasinait chez Zellers puis qu'elle a acheté des chips au ketchup. Ginette nous écrit qu'elle aurait vu d'aller en public peu habillée puis courir pour échapper à quelqu'un. José qui dit que ça lui arrive souvent d'être en hauteur et de tomber et de faire des rêves où tout est mélangé.
Ça m'est souvent, souvent arrivé. Moi, maintenant, que j'embarque sur le pont de Québec, pas le pont de la porte, le pont de Québec.
OK.
Puis je me souviens plus si je suis en auto ou à pied ou en vélo, peu importe.
Ouais.
Mais à un moment donné, poup, il n'y a plus de pont, puis je tombe. Puis je me réveille. Hein? Avant d'être rendu en bas, on peut pas rêver sa propre mort.
Ben, c'est pour ça tantôt je te posais ça, puis t'as raison. C'est vrai que c'est une règle qu'on m'a dit, ça. On peut pas rêver sa propre mort, sinon on meurt pour vrai.
Non, tu te réveilles.
C'est ça.
Quand ça nous réveille.
Ouais. T'arrives, puis boum, tu te réveilles tout d'un coup. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils rêvent, puis ça revient quand même régulièrement à l'école. Que ce soit l'université, ou même si ça fait des années qu'ils ont terminé.
Parce que c'est une angoisse de, mon hypothèse, c'est que c'est une angoisse qu'on a récurrente à ce moment-là, à cet âge-là, où ce qu'on est dans la vie, là. Ça habite tout le monde de rater le fameux examen et tout. Puis parce qu'il y en a que c'est, l'examen était hier, puis il y en a, c'est, t'es pas dans la bonne classe, ou, mais moralité, c'est que t'es là, puis c'est pas là, là.
Y en a un qui nous dit que lui, il rêve, là, ça fait 10 ans qu'il a fini l'université, et qu'il rêve que son examen, c'est le lendemain, là. C'est là que ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand je conduis un véhicule dans mes rêves, jamais le véhicule n'a de frein. Ah ben oui, mais ça, c'est un classique, là. C'est-à-dire que tu peux rien faire. Il y a quelqu'un qui nous amène aussi sur ce point-là. Ça, c'est un peu plus malaisant, là, mais c'est toujours le fameux rêve où tu rêves que tu es aux toilettes. C'est sûr que c'est déjà arrivé
à tout
le monde.
De quoi le fameux rêve? Non, pas moi.
Écoute, ben...
Ouais, il est peut-être fameux, là, mais...
J'ai rêvé que j'allais à la toilette faire pipi quand je me suis réveillé, mes draps étaient mouillés.
Oh!
Oh non! Hein?
Oui.
Ah ouais, OK, c'est live, là.
Mais t'as jamais fait ça plus
jamais.
Jeune? Moi, jeune.
Ah ben là, oui, peut-être plus jeune, faire pipi dans mon lit. On a 5 ans, là.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, personnellement, je me souviens avoir eu le souvenir que je pensais que c'était pour vrai que j'étais assis sur la toilette.
Ouais, mais t'avais quel âge?
Ah, ben là, je me souviens pas.
Ben, je pense que c'est très jeune.
Autour de 10 ans, peut-être.
Ben, c'est ça.
C'est possible que tu sois plus jeune. Et puis, je suis allé voir la définition de tuer parce que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à avoir tué quelqu'un dans mes rêves. Et on dit que, disons que si ça vous arrive de tuer quelqu'un dans vos rêves, c'est que vous avez probablement perdu le contrôle de quelque chose que vous aimez pas. Vous êtes dans une situation d'anxiété ou dont vous réalisez que vous avez plus nécessairement le contrôle. Ou encore angoisse, lutte contre les changements, ou les gens autour de vous.
Okay.
C'est que t'as perdu un contrôle à quelque part.
Ouais. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, ça fait très longtemps, mais pendant un bout de temps, c'est drôle, je me souviens parce que je n'avais parlé en onde dans une autre station où on travaillait. Mm-hmm. Fait que ça fait comme 15 ans peut-être. Puis il y a eu une période où je rêvais beaucoup, je voyais des avions s'écraser. Puis c'est terrible de voir ça. Parce que t'imagines les gens dedans, bien entendu.
Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois, ça.
Ouais, ben moi, ça m'est arrivé, là, mettons, comme 5-6 fois. Puis ça a de l'air que t'as peur d'échouer quelque chose.
Ah oui?
Ouais, ton inconscient, t'es dans une passe où ce qui se passe, je sais pas trop quoi dans ta vie, là. Puis t'as peur d'échouer quelque chose, que quelque chose va mal aller, ou peut-être c'est une peur du lendemain, là. Mm-hmm. Puis là, tu vois des avions, là, genre. C'est super clair, là. Et là, mettons, j'étais à Charlebourg dans mon rêve, là. J'étais à peu près comme. Ça ressemble à la maison où on était. Puis là, tu vois un jet. Puis là, c'est comme, hey, on dirait qu'il descend. C'est épouvantable, là, comme sensation, tu sais.
Ouais.
Puis là, pouf!
Parce que tu peux rien faire.
Non, puis tu vois tout ça en direct, puis boy. Ouais. Toi, Alex, non, tu rêves zéro ou...
C'est quoi ça, un rêve, en fait?
Tu rêves pas pantoute?
Très rare. Je me souviens pas d'un rêve précis.
Il y en a un que j'ai eu souvent, presque plus maintenant, là, mais je pense que ça m'est déjà arrivé une fois, il y a pas longtemps. J'ai déjà été fumeur. J'ai arrêté de fumer en 93.
T'as fumé plusieurs années, tu disais, hein?
Ouais, 10-12 ans, peut-être.
Ben, c'est pas mal.
Plus que ça, même. Une vingtaine d'années. Bref,
Il dit, non,
10-12 ans, 20 ans.
Non, mais j'essayais de revenir à quand j'ai commencé. Bref, en 93, j'arrête de fumer. Donc, ça va faire 27 ans au mois de février. Mais dans les mois, les années qui ont suivi, j'ai souvent rêvé que je recommençais à fumer.
Hein?
Je me réveillais, j'étais en sacrement.
Ah oui, ça ne me tente pas d'avoir le goût. Là.
Ben non, ça ne me tentait pas de recommencer à fumer.
Non.
Mais il se présentait une occasion particulière, je me souviens pas trop, puis je me vois fumer dans mon rêve. Puis en me réveillant, les premières secondes, je fais « Maudit Colin, je recommençais à fumer.
» Ah, oh, pour vrai, t'es convaincu que t'as recommencé à fumer?
Ben oui, pendant 2 secondes, hey. Puis là, je fais « Ah non, OK, c'était juste un rêve, ouf. »
Puis des fois, t'as pas le goût encore aujourd'hui d'avoir une bonne cigarette là, dans les mains. Non, ça t'arrive jamais.
Non, pas du tout.
Mais une bonne
cigarette. Même que quand j'ai arrêté de fumer, j'avais attrapé un bon rhume. Puis quand j'avais le rhume, je fumais pas, j'étais pas capable.
OK.
Puis quand j'ai commencé à aller mieux, je n'ai allumé une, mais elle a goûté tellement mauvais.
Ouais.
Ça fait que j'ai fait « Ah, oh, ben tiens. » je commençais à sortir avec une fille à ce moment-là. Elle avait des enfants, tout ça, non.
Ah ouais.
J'ai justement profité. Je vais essayer d'arrêter.
Ouais.
Je me suis pas mis la pression de dire j'arrête.
Ouais.
Je me suis juste dit je vais essayer d'arrêter. Pendant un mois, j'avais mon paquet puis mon briquet sur moi. Puis j'y ai pas touché.
Pourquoi tu as fait ça?
Puis là, j'ai sorti mon paquet de mes poches.
Non, mais pourquoi tu les as
traités? Au cas où j'aurais une crise.
Je
savais pas comment j'allais réagir, moi, le sevrage, là. Puis finalement, ben le paquet, je l'ai mis dans un tiroir, puis
fait que toi, ça a
été... j'ai jamais retouché. Puis le paquet, je l'ai encore 27 ans plus tard. Il reste 5-6 cigarettes dedans, là, puis évidemment, ils sont sèches à mort, là. Tu regardes, puis ils vont brûler.
Au FM 93, c'est...